Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, je suis seul à la radio, contrairement à la dernière émission, donc on peut dire qu'on est dans une émission classique de qui ou quoi pour ceux qui suivent, dans laquelle je vais, comme à mon habitude, vous parler de livres qui ne sont pas forcément sortis récemment, mais dont j'ai juste envie de vous parler. Sauf qu'au lieu de faire 3 livres comme l'année dernière, pour cette troisième émission de cette nouvelle année, ce sera 2. Sauf que bien sûr, ça complique tout. Quand est-ce qu'on met la pause musicale? Est-ce qu'on reste sur 2 pause musicale justement? Si on en met qu'une, est-ce qu'on met un morceau plus long? Bref, beaucoup de questions existentielles pour pas grand chose. Donc, ce soir, j'ai choisi de vous parler de 2 livres qui me sont extrêmement chers. 2 livres qui ne seraient pas les premiers à partir sur le bon coin ou dans un vide-grenier si je devais m'en séparer. Un livre d'art et une BD. Ce soir, je vous parle du Codex Serafinianus de Luigi Serafini et du dernier tome des Passagers du Vent de François Bourgeon. C'est parti! J'aime bien commencer mes chroniques par un petit souvenir perso en lien avec le livre dont je vais vous parler. C'est vrai que pour moi, tous ces livres dont je vous parle ne viennent pas de nulle part. Ils touchent souvent à l'intime et pas seulement par leur contenu. J'ai souvent donc une petite histoire à raconter autour. Et c'est le cas pour le premier livre dont je vais vous parler ce soir. Pour ça, je vais remonter un petit peu loin. Enfin loin, ça dépend d'où on se place. En 1992, pour être précis. À cette époque, j'ai 16 ans et je commence à affirmer mes goûts. En 92, c'est l'année des JO d'hiver qui ont lieu pas loin de là où j'habite, à Albertville en Haute-Savoie. Et comme beaucoup de monde en France, cette année-là, je regarde la cérémonie d'ouverture des JO à la télé. Et cette cérémonie me retourne le cerveau, même si, en vrai, je m'en souviens pas du tout que ça m'ait retourné le cerveau, même si je sais donc que c'est pas sur le moment que ça m'a retourné le cerveau, je suis pas resté à baver devant mon écran pendant une heure, mais je sens que je suis marqué par le spectacle, marqué par la chorégraphie, par les costumes particulièrement et par la poésie générale du truc. En fait, je découvre un artiste, Philippe Découfflet, chorégraphe de son état, qui a mis en scène la chose. Et même si la danse ne m'a jamais spécialement intéressé, je me mets à le suivre de loin en loin. Bon, je sais, on est toujours loin des livres, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Donc, en suivant ce monsieur de loin, bien sûr, le souvenir s'estompe et me reste surtout le souvenir des costumes et d'un monde à part. Et un jour, je tombe sur une interview de Philippe Découfflet et en fait, j'apprends que pour faire les costumes, justement, il s'est inspiré, avec son costumier, ça fait beaucoup de costumes dans la même phrase, mais c'est comme ça, d'un livre qui s'appelle le Codex Serafinianus, tout serait dedans. Dès lors, je n'ai eu de cesse d'essayer de le trouver, ce livre. Alors, je rappelle quand même qu'à l'époque, et avant 2000, en gros, enfin dans les années 90, il n'y avait pas Internet, et que c'est pas parce qu'on a entendu parler d'un truc qu'on avait l'assurance de le voir en vrai, loin de là. Toujours est-il qu'un jour, à force d'en parler, quelqu'un l'a trouvé, et on me l'a offert, ce livre. Et depuis, je crois que je m'en suis jamais vraiment remis, et vous pensez bien que c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Donc, le Codex Serafinianus, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre écrit par un Italien qui s'appelle Luigi Serafini, d'où le nom. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, c'est un peu léger. Le Codex Serafinianus, c'est une encyclopédie, dans une langue inconnue, et qui documente un monde imaginaire. Le livre est en 2 parties, la première sur le monde végétal, animal, la nature, etc., et la seconde sur tout ce qui a trait à l'homme dans ce monde qui est décrit. Quelques mots sur l'auteur. Luigi Serafini, c'est un architecte né en 1949, italien, dont on ne sait pas grand-chose en fait. On ne sait vraiment rien, à part qu'il est architecte et italien. En tout cas, il a quand même un petit peu communiqué sur les conditions dans lesquelles il a fait ce livre. Apparemment, quand il avait 20 ans, il s'est plus ou moins enfermé pendant 3 ans à Rome, et il n'a fait que ça. Il est rentré dans une espèce de transe solitaire, lui dit qu'il a vraiment fait comme un moine, et en ressortant, ça a donné ce livre. Ça fait un peu rêver, d'autant que le gars n'a jamais rien fait d'autre, ce qui rajoute encore un caractère unique au livre. Pour moi, jusqu'à ce que je prépare l'émission, ce livre portait plutôt bien son nom. J'étais persuadé qu'un codex, c'était un livre qui décrit un monde, genre une encyclopédie, enfin, genre l'ancêtre de l'encyclopédie, et ben, je vous le demande d'un en mille, et ben, j'avais faux. Et je vais donc partager ma découverte avec vous. Un codex au tout départ, pardon, c'est l'ancêtre des livres. Ce sont des parchemins, manuscrits, réunis en cahiers. Le codex va préfigurer en fait ce que seront plus tard les livres. On trouve beaucoup de codex dans les civilisations d'Amérique du Sud par exemple. Et finalement, le codex Serafinianus se pose quand même en héritier de tout ça. Pas par son côté encyclopédique, comme moi je pensais, mais plus par son côté témoignage d'un autre temps, d'un autre lieu, d'une autre civilisation. Le tout imaginaire, parce qu'au final, c'est un peu le livre de science-fiction ultime. Alors, le livre se lit en deux temps. Le premier consiste à s'attarder sur les illustrations. Quelques exemples, un nuage qui produit des arcs-en-ciel en forme de ruban, des costumes, j'y retrouve encore, magnifiques, des images de villes imaginaires, des plantes complètement folles, etc. Et je ne sais pas du tout quelle technique il a utilisée pour faire les dessins, donc c'est un peu difficile de vous les décrire. Moi, ça m'inspire plutôt des dessins faits au crayon de couleur, mais bon, j'y crois pas trop, enfin voilà, je suis pas assez technicien pour savoir. En tout cas, le dessin est assez réaliste, mais pas vraiment. Il est pas très stylisé, mais en fait, il est plus que fascinant de par les sujets illustrés. Et puis, il y a le second temps de cette lecture. Le second temps, celui qui consiste à s'attarder sur le texte. Ce fameux texte incompréhensible, parce qu'illisible dans un alphabet complètement inconnu, avec des lettres complètement bizarres. J'ai lu dans plusieurs articles sur internet qu'il y a plein de personnes qui ont sérieusement essayé de déchiffrer le texte. Des mathématiciens, des illuminés, comme s'il fallait absolument que tout ça ait un sens. En plus, comme il y a quand même le fait de faire ce livre pendant 3 ans en s'enfermant, il y a quand même pas mal à voir avec la psyché de Luigi Serafini, eh ben, je pense qu'effectivement, on peut partir loin pour essayer, parce qu'on peut y voir des signifiants au 37e degré à toutes les pages. Personnellement, moi, ça m'a même jamais effleuré d'essayer. Déjà, d'une, je déteste les casse-têtes, et là, on a vraiment affaire à un casse-tête de compète. De deux, j'aurais tendance à me méfier en mode, ça se trouve, c'est écrit que celui qui déchiffrera ce livre est un con, et je pense que je serais déçu. En fait, je préfère largement me faire porter par l'imaginaire et par l'imagination de Luigi Serafini. Ce livre, c'est un rêve éveillé. Certaines pages sont proches du cauchemar, mais la plupart sont de toute beauté et d'une poésie à toute épreuve. Et en fait, un des effets les plus forts de ce livre, c'est qu'il stimule l'imagination. On comprend vraiment facilement, en le feuilletant, en essayant de le lire, pourquoi Découfflé en a tiré plusieurs spectacles. Ce livre, il est libre, il est fou, et ce livre est une source d'inspiration. Apparemment, Luigi Serafini est encore vivant et continue de l'enrichir. Je vais finir sur le fait qu'en fait, il est un peu dur à trouver, parce qu'il a un côté livre d'art rare, qui est un peu détestable d'ailleurs, parce que ce livre, en fait, il devrait être vu par le plus grand nombre de personnes possible, mais bon. Il est constamment réédité, mais ou il est super cher, ou c'est des petits tirages, etc. etc. Bref, j'ai trouvé moi assez rapidement un lien vers un scan hébergé par le site Issue sur internet, et je mettrai ça en commentaire sur le podcast de l'émission. Allez-y pour le voir absolument. I
to ride the subway in New York City. From the beginning of the line at New Lodge Avenue all the way up to 241st Street in the Bronx, and nobody would bother her.
C'était Le Tigre sur Radiadio 895 avec FYR. Vous êtes toujours dans Qui ou Quoi. On continue de parler de livres jusqu'à 21h30 et des brouettes parce qu'on a commencé un peu en retard. Et après le codex de Serafinianus, on parle de BD. Et donc, on plonge dans la BDTech idéale de Qui ou Quoi. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir, il y a 2 semaines pour être précis. Ce livre, c'est la première partie du 7e tome des Passagers du Vent. Ça s'appelle Le Sang des Cerises et c'est sorti chez Delcourt. Avant de commencer à vous parler de la bande dessinée proprement dite, je tenais quand même à évoquer avec vous un petit truc. Donc là, sur Le Sang des Cerises, on est sur la première partie du tome 7 des Passagers du Vent. Donc apparemment, la BD est faite en entier, mais ne paraît aujourd'hui que la première partie. Et donc, objectivement, il a dû être coupé en deux pour pouvoir nous soutirer plus d'argent. En 2 fois, certes, mais quand même, ça fait chier. Ils avaient déjà fait le coup sur le tome 6, qui s'appelait La Petite Fille Bois Camillement. Et en plus, comme ils ont découvert qu'il y avait un créneau sur le fait de faire payer les fans de François Bourgeon, ils ont fait de la prépublication pour ce tome 7. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on pouvait voir fleurir dans les magasins de bande dessinée un journal qui nous offrait l'histoire de ce tome, de ce tome, mais en noir et blanc, et dans un format type Le Monde, avec du papier de meilleure qualité que Le Monde, mais quand même, au rythme d'un numéro par trimestre. Malheureusement, les fans comme moi allaient l'acheter. Enfin, juste une fois me concernant, j'ai vraiment trop eu l'impression de me faire prendre pour un pigeon. En fait, ils se le permettent parce que Bourgeon est un auteur qui fascine, mais qui est lent, et donc quand une nouveauté paraît, autant l'exploiter jusqu'au bout. Peut-être qu'un éditeur me dirait que c'est la volonté de l'auteur de faire comme ça, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, je reste sur ma constatation, et ça me gâche quand même un tout petit peu le plaisir parce que le procédé n'est pas joli joli, et puis surtout, on coupe l'œuvre en deux qui a été pensée d'un seul tenant. Alors c'est vrai que François Bourgeon fascine. Et s'il fascine, c'est quand même parce que c'est lui qui a écrit Les Passagers du Vent. Et Les Passagers du Vent, c'est un peu la BD des années 80. En effet, le premier tome, paru au début des années 80, en 1979 pour être précis, juste un peu avant. Alors, Les Passagers du Vent, ça nous raconte principalement l'histoire d'Isa. Je vous le raconte pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a forcément des gens qui n'étaient pas nés ou qui ne connaissent pas. Donc Isa, c'est une jeune femme à la fin du XVIIIe siècle qui va traverser en fait l'histoire du colonialisme à cette époque et voyager à travers le monde. La série des Passagers du Vent se compose de 3 espèces de cycles. Le premier, du tome 1 au tome 5, parle de la jeunesse d'Isa. Est paru dans... Le second, c'est le tome 6. Le second cycle, c'est le tome 6, qui est séparé en 2, comme je viens de vous expliquer. Là, ça introduit un nouveau personnage, qui n'est autre que l'arrière-petite-fille d'Isa, la personnage principal du premier cycle, et qui s'appelle aussi Isa. Donc c'est très bien pour tout raconter, on confond tout. Ce deuxième cycle se déroule aux USA, au moment de la fin de la guerre de sécession en Louisiane. Et le dernier cycle, qui vient de commencer là, avec le tome 7, se déroule en France, après la Commune, et là... On ne traite que de l'arrière-petite-fille d'Isa, c'est-à-dire Isa. Super. Plus aucun rapport avec le cycle premier, si ce n'est qu'il y a le même prénom, qu'il y a une filiation, et puis qu'il y a surtout cet auteur, François Bourgeon, qui a fait les 3. Alors, au-delà du fait que François Bourgeon, c'est le fameux auteur des Passagers du Vent, il fascine surtout parce que, enfin, c'est ce que je pense moi, parce que c'est le spécialiste de la reconstitution historique en bande dessinée. Un peu comme Tardy, sauf qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance niveau dessin. On est surtout dans un dessin qui est stylisé également, mais beaucoup plus réaliste. François Bourgeon, c'est un maniaque. il est aussi extrêmement attaché à la cohérence et à la crédibilité du monde dans lequel évolue le personnage. En l'occurrence, le nôtre, dans Les Passagers du Vent. Et d'ailleurs, il y a des monographies consacrées à la préparation des albums de Bourgeon, un peu comme des bonus de DVD, sauf qu'ils ne sont pas fournis avec la BD originale et qu'il faut se payer le truc à part. On en revient toujours à ce truc. Voilà, j'ai un peu situé l'auteur pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je pense de cet avant-dernier livre des Passagers du Vent, parce que le prochain est censé clore à tout jamais les Passagers du Vent. Donc, l'histoire, le début, dans ce livre, on suit une certaine Claire Vie, une Bretonne fraîchement débarquée de Bretagne, qui arrive à Paris le jour de l'enterrement de Jules Vallès et qui va rencontrer et se lier d'amitié avec la fameuse Isa, l'arrière-petite-fille d'Isa. Et tout le livre donc se passe dans le Paris de l'après-commune. Ils sont en train de construire le Sacré-Cœur, par exemple. L'accordéon commence à faire son apparition, etc. Pour vous dire mon sentiment, en fait, je suis pas déçu par cette BD, mais je suis pas vraiment enthousiaste. En fait, comme je l'ai dit avant, le tome 6 des Passagers du Vent était aussi séparé en deux livres. On y rencontrait l'arrière-petite-fille d'Isa, sauf que tout le livre 1 était juste un prétexte à décrire la Louisiane à la fin de la guerre de Sécession. Et comme on ne découvrait qui était le personnage qui avait été introduit qu'à la fin du tome, on ne comprenait quasiment rien. On sentait bien que la reconstitution était extrêmement forte, mais niveau histoire, c'était presque sans intérêt et surtout très 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 obscur. Et là, eh ben rebelote, exactement la même. On suit Claire Vie, un peu Isa, et puis en fait, on sent que c'est une mise en place du décor. Pour nous immerger dans l'époque, essentiellement. C'est super fort de pouvoir prendre son temps comme ça, de pouvoir dédier 80 pages d'un livre à la mise en place d'un décor, d'une reconstitution, d'une ambiance et un petit peu des traits de caractère des personnages. Sauf qu'en fait, le tome finit par une phrase du genre « Maintenant ça va commencer » et puis en fait ça s'arrête. Donc ça fait un peu rager. On a l'impression que c'est le souci de perfection de la reconstitution qui prend le dessus sur tout. Et ça se fait un peu au détriment de l'histoire. Il y a un déséquilibre entre les deux. Alors je sais d'expérience que le tout va se rétablir avec le livre 2. Mais là, eh ben on est dans le déséquilibre quoi. Résultat, il y a plusieurs points qui sautent aux yeux. Dans la première émission de Qui ou quoi l'année dernière, j'avais déjà parlé d'une BD de Bourgeon. Le tome 3 des Compagnons des Crépuscules qui s'appelle Le Chant des Malatères. Je vous dis pas de la réécouter par podcast parce qu'il n'existe pas celui-là. Mais en fait, comme on s'ennuie un peu dans ce livre 1 du tome 7, on a le temps de repenser un peu aux autres livres de Bourgeon en le lisant. Et en fait, ce truc de poser une ambiance, eh ben, il l'avait fait pour le fameux tome 3 des Compagnons du Crépuscule. Sauf que le livre était sorti en une fois. Et autant à l'époque, ça rajoutait à la force de la bande dessinée, que là, ben, comme je vous ai dit, ça tombe un peu à plat. Autre point, Claire Vie et Isa forment un duo un peu en forme de redite, parce que dans une autre bande dessinée de Bourgeon, une série qui s'appelle Le Cycle de Cyan, il y a deux personnages féminins, Cyan et Aiyeia, du cycle qui rejouent exactement la même partition. Plus loin encore, il y a même certaines cases où en fait c'est des copier-coller d'autres bandes dessinées. Par exemple, il y a une scène dans le tome 7 là où il y a une petite fille qui chante au premier plan en pleurant et elle a sa jumelle totale dans Les Compagnons du Crépuscule. En plus, vous rajoutez à ça le fait que moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'incohérences au niveau du dessin entre les expressions du visage et les sentiments qu'ils sont censés exprimer, et je finis par me dire que François Bourgeon n'est finalement qu'un humain et qu'à force, il finit par se répéter et même un peu à se tromper. Chose que je croyais impossible jusqu'à il y a peu, tant je trouve que ces BD sont proches de la perfection. Mais bon, tout ça, ça va quand même pas m'empêcher de la relire 20 fois cette BD pour justement m'imprégner de l'ambiance et du décor, parce qu'elle parle de la commune et que je reste un peu inculte sur la période de la commune, que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc quand j'aurai bien intégré la chose, normalement, il devrait sortir le livre 2, et qu'il dessine toujours aussi bien. Alors que la dernière fois qu'il avait fait une bande dessinée, ça m'avait semblé un poil bâclé. À noter quand même que, pour une fois, l'héroïne n'est jamais toute nue. Et ça, c'est une grande première dans l'œuvre de François Bourgeon. En fait, finalement, il réussit à se renouveler. Et puis, tout ce que j'ai dit avant, ben finalement, c'est peut-être pas si juste que ça. De toute façon, les passagers du vent sont un classique indémodable entre aventure et histoire. Et en fait, sur ce créneau, en bande dessinée, on n'a jamais fait mieux. De retour dans Qui ou quoi, l'émission touche à sa fin, mais j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire. En fait, comme j'ai dit en intro, parler de deux livres, ça casse un peu tout le rythme. Deux livres, deux morceaux, enfin bon, tout ça c'est à améliorer. En attendant, je vais quand même compléter, finir, parce que là de toute façon, je vais bientôt dépasser. En fait, je vais compléter avec des petites suggestions à lire ou à regarder, parce qu'en fait, à qui ou quoi, eh ben, on ne fait pas que lire, on regarde aussi des choses. Donc en rapport, je vais vous donner deux petits trucs pour compléter les deux livres dont je viens de vous parler. Donc ben, quand je parle du Codex Serafinianus, je vous encourage vraiment à essayer de regarder la cérémonie des JO par Philippe Découfflé en 1992. J'en ai regardé des bouts en préparant l'émission, mais c'est toujours aussi joli, moi, même si la qualité des vidéos que j'ai trouvées était vraiment pourrie. Pour les passagers du vent, eh ben, je vous dirais de relire tous les passagers du vent, et puis surtout de relire tout le reste de l'œuvre de François Bourgeon, Les Compagnons des Crépuscules dont j'avais déjà parlé, Le Cycle d'Ossiane dont je n'ai pas encore parlé, mais je ne m'interdis pas d'en parler. Et puis c'est tout en fait, parce qu'il dessine pas beaucoup quand même ce monsieur, il met beaucoup de temps à les faire, mais bon ben, on peut les lire et les relire, c'est toujours ça de pris. En attendant donc l'émission touche à sa fin, donc on se retrouve nous dans deux semaines. La semaine prochaine sur le même créneau, vous pouvez écouter Radio Gaga qui sera là pour sa première ou deuxième émission normalement. Donc nous on se retrouve dans deux semaines. En attendant à 10h, il y aura comme à la radio duo. Et donc en attendant, nous on se retrouve dans deux semaines. Bonne fin de soirée.